La croix dans la vie du chrétien, série Faire des progrès spirituels, livre 26. Docteur Zacharia Tanifomom, édition Parole de vie BP, 3F 30 1920, Codonian, copyright 1992, Docteur Zacharia Tanifomom, BP 6090 Yaound, Cameroun, et édition Parole de vie BP, 3F 30 1920, Codonian, France. ISBN 2-9503150-8-9. Tous droits réservés. Publication originale Yaoundé, Cameroun, 1984. Docteur Zacharia Tanifomom, remerciement à Claude Chen et à sa famille pour tout le temps et les efforts qu'ils ont consacrés à la correction et à la première mise en page du manuscrit. Table des matières. Préface, 5 ch. 1. La croix et la trilogie satanique. 7. La croix et le diable, la croix et le monde, la croix et la chair. 8, 18, 25, ch. 2. La croix et notre héritage, 35, le rachat par la croix, comment peut-on entrer dans notre héritage, 36, 37, ch. 3. La croix et la volonté de Dieu, 69, Jésus-Christ et la volonté de Dieu, le logo de Dieu et l'urma de Dieu, 70, 72, ch. 4. La croix et nos priorités, 99, les priorités du Seigneur, gagner des âmes, une priorité 106, ch. 5. La croix et les relations personnelles avec autrui, 111, le chrétien est né crucifié, un principe de base, la mort à soi-même, quelle est la valeur d'une personne, 112, 112, 122, ch. 6. La croix et la domination du monde, 133, vivre le royaume de Dieu sur la terre, comment implanter une assemblée locale, la formation des disciples, 134, 145, 170. Préface. Ce livre, intitulé La croix dans la vie du chrétien, est le 6e de la série Faire des progrès spirituels. Les 7 livres de cette série sont les suivants: livre 1, Dieu, un homme et des hommes, livre 2, les relations spirituelles, livre 3, responsabilité spirituelle, livre 4, vision, fardeau et action, livre 5, le ministère et les ministres de la Nouvelle Alliance, livre 6, la croix dans la vie du chrétien, livre 7, connaître le Dieu dont la bonté est sans pareil. Les messages contenus dans ce livre furent les derniers d'une série de messages donnés au peuple de Dieu du Cameroun et destinés à la formation des responsables. Lors de la préparation de ces messages, j'ai senti que j'avais la responsabilité, devant le Seigneur et devant son peuple, de dire tout ce que j'avais sur le cœur, au cas où il ne serait pas possible à mes auditeurs de m'entendre dans le futur. Je pensais qu'il me fallait donner mon dernier mot à l'Église. Le voici. J'ai la certitude que la croix est au centre de la vie et du ministère du croyant. Ma prière, aussi bien pour moi-même que pour le corps de Christ, est que chacun de nous puisse connaître la croix de manière expérimentale et qu'alors le Saint-Esprit puisse œuvrer librement dans notre vie pour la gloire du Seigneur. Puisse le Seigneur utiliser ces messages pour l'enrichissement de plusieurs dans son Église. Docteur Zacharia Tanifomom, BP, 7100, Yaoundé, Cameroun, page 5, chapitre 1. La croix et la trilogie satanique. Dieu a une seule réponse pour tout ce que le diable fait pour faire échec à ses plans. Il n'a qu'une seule réponse à donner au diable, à sa trilogie et à toutes ses manifestations. Cette unique réponse, c'est la croix du Seigneur Jésus. En dehors de la croix, Dieu n'a pas de réponse pour le diable. Page 7. La croix et le diable, le but originel de Dieu et la tragique trahison du diable à l'origine, Dieu avait un but pour l'homme. Ce but était que l'homme, dans une communion vitale avec lui, puisse avoir la domination sur toute sa création. L'homme a été créé pour dominer. La Bible dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Genèse 1, 26-28. Dans la pensée de Dieu, l'homme a été créé pour dominer. C'était là l'intention originelle de Dieu en créant l'homme. La domination de l'homme devait être totale sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, toute la terre, tout animal qui se meut sur la terre. L'homme a été créé pour dominer sur toute la terre et sur tout ce qui s'y trouve. La domination de l'homme devait être totale. Dieu s'était engagé à accomplir ce but. Il s'était engagé à aider l'homme pour lui permettre d'avoir une domination totale sur tout le reste de la création. Malheureusement, le péché s'est introduit. Le diable tenta l'homme et ce dernier se rebella, céda la domination au diable et devint dominé au lieu d'être dominateur. Ceci eut des conséquences dont les répercussions furent profondes. Au lieu de dominer, l'homme devint au contraire celui qui est dominé. Le diable fut alors élevé à la position de prince de ce monde. Quand Adam pécha, il accomplit un acte tragique, aux conséquences graves et durables, page 8. Tout d'abord, il céda sa position de seigneur de la terre. Deuxièmement, il intronisa le diable en tant que nouveau dieu et seigneur de la terre. La transaction était si complète et si réelle que Dieu a dû reconnaître le diable comme étant le dieu de ce monde et les royaumes de ce monde comme lui appartenant. Décrivant la tentation de Jésus dans le désert, la Bible dit « Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi » Luc 4, 5-7. Le diable dit que les royaumes de ce monde et leur gloire étaient à lui. Ils étaient tellement à lui qu'il avait la pleine liberté de les donner à qui il voulait. Il dit que ses royaumes lui avaient été donnés. Effectivement, il lui avait été donné par Adam. Il fut un temps où le diable n'avait rien. Adam conclut donc un marché avec lui et lui donna tout en échange du droit de manger le fruit interdit. Jésus a parlé du diable en le nommant le prince de ce monde. L'apôtre Paul l'appela le dieu de ce monde. À partir de la chute, le diable fut établi comme le dieu de ce monde et commença à régner. Il entreprit de consolider son règne et de faire prévaloir son autorité. Il établit une trilogie qui devait accomplir son but, défendre son royaume et assurer la continuité de son règne. Cette trilogie fut établie pour s'opposer à la Trinité de Dieu, le diable devait s'opposer au Seigneur Jésus. Le monde devait s'opposer au Père. La chair devait s'opposer au Saint-Esprit. Quand Adam pécha et plaça la terre et tout ce qui s'y trouve sous l'autorité de Satan, il semblait que tout était définitivement perdu. Dieu maudit le sol, abandonna Adam à sa nature de poussière, le chassa hors du jardin d'Éden et mit une barrière sur le chemin du retour. Il regretta même d'avoir créé l'homme. Cependant, Dieu n'abandonna pas son but initial qui était que l'homme puisse dominer. Il entreprit donc l'accomplissement de son but originel. Mais il y avait un problème. Les royaumes de là, page 9. Terre avait été cédée à Satan. Pour que Dieu puisse avoir un droit légal sur eux, il fallait qu'il y ait un grand conflit, que le diable soit vaincu et que les royaumes soient repris de Satan vaincu. Ce n'était pas là une tâche facile. Dieu avait besoin de quelqu'un pour entreprendre ce combat, pour vaincre le diable et pour ramener les royaumes sous l'autorité de Dieu. Il devint nécessaire de désigner quelqu'un qui combattrait le diable. Il devint nécessaire de désigner le lieu où se livrerait la grande et unique bataille de laquelle dépendrait toute chose. Dieu désigna Jésus-Christ, son Fils unique, comme étant celui qui devait combattre le diable. Dieu désigna un endroit appelé Golgotha et une bataille appelée la croix, bataille dont tout le reste dépendrait. La bataille livrée sur la croix pour voir le combat, qui s'est livré sur la croix dans une juste perspective, il est important de savoir comment le diable s'est élevé lui-même comme rival et ennemi de Dieu. Ceci est important, car celui qui allait le défier, le détrôner et lui reprendre les royaumes de la terre, devait agir d'une manière totalement opposée à celle par laquelle le diable avait séduit le monde. La voie choisie par le diable pour usurper l'autorité, la voie choisie par le diable pour usurper l'autorité est passée par l'orgueil, la volonté propre, le mensonge. La Bible dit de lui « Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. » Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, je t'avais page 10. placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, et tu as péché, je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse, par ton éclat. Ézéchiel 28, 12-17. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse, Ésaïe 14, 12-15. Nous voyons, dans les passages ci-dessus, que le diable s'est établi lui-même par l'orgueil, l'arrogance, l'exaltation de lui-même et le désir d'être vu. Par la Bible, nous voyons que tout son caractère était plein de lui-même. Le diable dit « Je monterai, j'élèverai, je serai ». Dieu dit « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat ». Il était plein de lui-même. Il voulait la gloire pour lui-même. Son orgueil venait de sa beauté. Il oubliait que tout ce qu'il était lui avait été accordé par quelqu'un d'autre. Le diable a également établi son royaume par la tromperie, la fausseté, les demi-vérités. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. Il est le trompeur. Il était désireux d'accomplir sa propre volonté. Page 11. Il voulait être indépendant vis-à-vis de Dieu. Il voulait l'autonomie. Il voulait établir son propre trône. Il n'était pas prêt à se soumettre à la volonté de Dieu. Il n'était pas prêt à travailler pour la gloire d'un autre. Ainsi, par l'orgueil, la volonté propre et le mensonge, il a établi son trône. La voie choisie par Jésus pour monter légalement sur le trône, pour que Jésus remporte la victoire et reprenne pour Dieu ce que le diable avait usurpé, alors il devait manifester une humilité à la mesure de l'orgueil manifesté par le diable, et même au-delà, un engagement à faire la volonté de Dieu, à la mesure de l'engagement du diable à faire sa propre volonté, et même au-delà, la vérité, à la mesure du mensonge dont avait fait preuve le diable. Parlant du Seigneur Jésus et de son humilité, l'apôtre Paul disait lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, 6-8, j'ai été pleinement Dieu et avait pleinement le droit de ne pas quitter cette position. Il a abandonné son droit d'être Dieu. Il s'est dépouillé lui-même de tous ses attributs divins. Il a mis totalement de côté tous ses droits et privilèges. Il s'est vidé lui-même de tout. Il n'a rien retenu. Il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition d'un esclave. Il a obéi totalement à toutes les exigences de la volonté de Dieu, obéissant même jusqu'à la mort, mis au rang d'un infâme criminel. Par tout cela, il a terrassé le diable. Page 12. En outre, tout au long de sa vie et de son ministère, il n'a jamais recherché la popularité, mais au contraire la volonté de Dieu. Il n'a jamais exercé sa volonté indépendamment de la volonté de Dieu. Il a dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre » Jean 4, 34. « Je ne puis rien faire de moi-même selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste. » Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père, qui m'a envoyé Jean 5, 30. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il doit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement Jean 5, 19. Son engagement à faire la volonté du Père ne dépendait pas du fait qu'elle était facile ou difficile, du fait qu'elle conduisait à l'approbation ou au rejet. Il s'abandonna à cette volonté. Dans la nuit où il fut trahi, alors que Pierre essayait de combattre pour lui, il dit à Pierre « Remets ton épée dans le fourreau. » « Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Jean 18, 11, et dans l'agonie de Gethsémané, il prie à Père « Si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne » Luc 22, 42. Je le répète, Par cet engagement total à accomplir toute la volonté de Dieu, il a terrassé le diable. Non seulement le Seigneur Jésus n'a jamais menti, mais il est la vérité elle-même. Il disait la vérité, il vivait la vérité. Aucun mensonge ne fut trouvé en lui. Aucune fraude ne fut jamais trouvée en lui. Il ne trompa personne. Il ne donna à personne une fausse impression. Il amenait les gens face à la vérité pure. Il ne retenait pas une partie de la vérité afin que de plus grandes foules le suivent. Il avertissait au contraire les foules de ce que cela leur coûterait si elles devaient le suivre. Ainsi, parce qu'il était la vérité, qu'il vivait la vérité et qu'il disait la vérité, il a livré en spectacle le séducteur en révélant ce qu'il était et il a triomphé de lui. Même avant que Jésus ne soit finalement confronté à la croix et le même, il avait déjà accompli ici-bas de nombreux actes qui étaient complètement à l'opposé de ce que le diable avait fait. Le Père l'approuva au moins à deux occasions. Page 13. Lors de son baptême dans le Jourdain, le Père était si émerveillé par l'obéissance du Fils qu'il prononçait ces paroles « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection » Matthieu 3, 17. Et lors de la transfiguration, le Père dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le » Matthieu 17, 5. Jésus est allé jusqu'à la croix. Il s'est lui-même chargé de sa croix jusqu'à l'endroit où, en soumission à la volonté de Dieu, il s'est laissé crucifier, devenant ainsi obéissant, jusqu'à la mort sur une croix. Pendant qu'il était là, pendu sur la croix, le combat contre le diable atteignit son stade final. Pendant que les gens se moquaient de lui et disaient « il a sauvé les autres », qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Luc 23, 35, il supportait tout sans se plaindre. Pendant qu'il regardait ceux qui le crucifiaient, au lieu de demander qu'ils reçoivent leur châtiment, il a prié pour qu'ils soient pardonnés. Alors qu'il regardait sa mère qui allait perdre son fils, au lieu de penser à sa propre agonie, il s'est occupé d'elle en lui demandant d'aller avec le disciple Jean. Même quand le Père l'a abandonné, parce qu'il portait l'iniquité de toute l'humanité, passée, présente et à venir. Il a persévéré sur le chemin de l'abandon de soi, de la soumission et de l'obéissance. Après avoir pleinement satisfait le cœur de Dieu et lui avoir accordé la dernière parcelle d'obéissance requise, il a pu annoncer triomphalement « tout est accompli ». Après cela, l'œuvre de sa vie étant accomplie, il n'était plus nécessaire pour lui de vivre, et c'est alors qu'il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains » Luc 23, 46. Tout est accompli. Du haut de la croix, le Seigneur Jésus a dit « tout est accompli ». Qu'est-ce qui était accompli ? Plusieurs choses étaient achevées, mais la principale fut le droit légal du diable sur les royaumes de ce monde et sur tout ce qui s'y trouve. Le diable avait reçu un coup fatal, une blessure mortelle. Sa puissance était brisée. Il était vaincu. Les royaumes qui étaient sa possession pouvaient maintenant changer de main. Page 14. Ainsi, le diable, qui était l'homme fort de la maison, était lié. Sa maison a pu être pillée et ses captifs ont pu être libérés. Parlant de la croix et de ce qui est arrivé au diable et à son armée, la Bible dit ainsi donc, « Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus, dans la servitude d'Hébreux 2, 14-15. » Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant, d'elle par la croix Colossiens 2, 13-15. La puissance de Satan a été anéantie sur la croix. L'autorité de Satan a été anéantie sur la croix. Le royaume de Satan a reçu un coup fatal sur la croix. Le royaume de Satan a reçu, par la mort de Jésus, un coup qui ne lui permettra plus jamais de tenir debout. Chacun peut expérimenter, par son union avec Jésus-Christ, la victoire sur l'ennemi vaincu. Satan a perdu son droit légal sur les hommes, les choses de la terre. Jésus a lié l'homme fort de la maison Matthieu 12, 29. Les croyants n'ont pas besoin de craindre le diable. Ils doivent exercer leur autorité sur lui. Le diable n'a pas été annihilé, la puissance de Satan a été brisée sur la croix. Il a été précipité de sa position d'autorité sur les hommes et sur le monde. Néanmoins, il n'a pas été annihilé. Il ne sera jamais annihilé. À la fin, il sera jeté dans les temps de feu. Pour le moment, il est en train de résister à sa chute et de tromper tous ceux qui se laissent tromper. Page 15. Satan exerce légalement sa puissante domination sur le monde. La croix Satan est détruite et terrassée, mais il résiste à sa chute totale et maintient une domination illégale sur le monde. Satan sera jeté dans le lac de feu. La chute avant le millénium. Nous vivons maintenant entre le moment où Satan a été dépouillé et le jour où il sera jeté dans les temps de feu. Que devons-nous donc faire? Quelle doit être notre attitude envers ses œuvres? Notre seule attitude doit être de détruire tout ce qui est de lui et tout ce que nous rencontrons de lui n'importe où. Nous devons être hardis. Il n'y a rien à craindre. Le diable peut paraître très important, mais il a été vaincu. Il peut paraître terrible, mais il n'a plus sa puissance. Il peut paraître comme le maître de l'univers, mais son pouvoir lui a été ôté. Les royaumes de ce monde ont changé de main. Ils sont passés entre les mains du Seigneur de gloire, Jésus-Christ, qui a vaincu Satan sur la croix. Puisque ces royaumes appartiennent maintenant à Jésus, tout ce que le diable fait aujourd'hui dans le monde est illégal. Il s'introduit illégalement dans la propriété de Jésus. Il doit être expulsé de tout territoire qu'il le veut posséder, car il est en fait en train de l'usurper. La croix a proclamé la fin de son royaume et de son autorité. La croix a été l'acte final. Cet acte ne sera jamais répété. Il n'y a aucune possibilité que le royaume du diable puisse jamais atteindre le but qu'il avait projeté. Avant la croix, il y avait de l'espoir pour lui, mais après la croix, rien ne peut le sauver. Le diable agit surtout par la séduction. Il veut dissimuler la réalité de sa défaite autant que possible et par là, tromper beaucoup d'hommes en leur faisant croire qu'il est toujours Seigneur. Quand il réussit à le leur faire croire, il contrôle leur esprit et par conséquent leurs actions. Page 16. Les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Dieu et de son Christ. Ils appartiennent à Dieu. Ils appartiennent à Christ. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec Christ. D'une manière très réelle, les royaumes de ce monde sont devenus nos royaumes. La terre est au Seigneur avec tout ce qui s'y trouve. La terre est aussi à nous avec tout ce qui s'y trouve. Nous avons été ramenés à une position d'autorité plus grande que celle qu'avait Adam. Nous devons dominer le monde avec Christ et pour Christ. Il n'y a plus de place pour la passivité. Il n'y a pas lieu de battre en retraite. Il n'y a aucun endroit sur cette terre sur lequel Satan ait un droit légal. Partout où se tient un croyant, il doit proclamer la seigneurie de Jésus sur ce lieu. S'il travaille dans une boutique, il faut qu'il proclame le Seigneur comme Seigneur de cette boutique. Il doit déclarer « Je m'empare de cette boutique pour le Seigneur et j'anéantis toute tentative du diable pour régner ici ». S'il est dans une salle de classe, il faut qu'il s'empare de cette classe pour le Seigneur et qu'il s'empare pour le Seigneur de tous ceux qui sont dans la classe en s'assurant que Satan n'y a aucune part. S'il est dans un village, il faut qu'il prenne le village pour Christ. S'il est dans une ville, il faut qu'il prenne cette ville pour Christ. S'il est dans un pays, il faut qu'il prenne ce pays pour Christ. Le croyant doit rester ferme pour déclarer que le royaume appartient à Christ et donc à lui aussi. Il doit garder le monde de Dieu avec une sainte jalousie. Il ne peut pas se contenter de laisser faire les choses sans intervenir. Il ne doit céder à aucune pression venant de Satan. Il ne doit rien négocier avec lui. Il n'y a eu aucune négociation sur la croix. Il ne doit absolument pas céder. Il ne doit pas donner au diable le moindre espace vital. Il doit être aussi impitoyable envers le diable et ses œuvres que la croix l'a été envers le Seigneur de gloire. Page 17. Il doit être avide de rechercher la gloire de Dieu et refuser au diable de posséder quoi que ce soit, tout comme la croix a été avide de s'emparer de toute la personne de Christ et ne la relâcher qu'après sa mort. Une nouvelle attitude, jusqu'ici notre attitude a consisté, dans une certaine mesure, à battre en retraite. Nous avons abandonné beaucoup de choses au diable et lui avons permis de continuer à agir en tant que seigneur illégal. Tout ceci est terminé. À partir d'aujourd'hui, nous n'acceptons aucune folie de ce genre. La terre appartient au Seigneur, ainsi que tout ce qui s'y trouve. Dieu ne connaît aucune division entre le temporel et le spirituel. Ils sont un. Dieu attend que ceux qui ont été unis à Christ prennent parti pour lui et défendent son territoire et ses possessions. Il les en rend responsables. Il y a un endroit, sur la terre de Dieu, une sphère d'activité, où il attend que tu sois Seigneur en son nom et que tu y exerces la domination pour sa gloire. Tu as la responsabilité de rechercher cette sphère, d'y rester et d'y régner pour lui. Tu es un roi. Règne. Tu es un seigneur. Gouverne. Tu es fait pour dominer. Domine. La croix et le monde de Dieu a créé ce monde physique où nous vivons. Ce monde a été créé pour sa gloire et pour le bien du dominateur du monde, l'homme. Ainsi, il y a des montagnes, des lacs, des mers, des fleuves, des côtes, etc. Il y a aussi des hommes dans le monde, des Chinois, des Russes, des Américains, des Africains, des Européens, etc. Tous ceux-ci ont été créés par Dieu pour sa gloire. Ce monde, tel qu'il est, a été créé par Dieu et pour Dieu. Sur la croix, Dieu, par la mort du Seigneur Jésus, a amené le monde à lui-même. Lui, le Seigneur Jésus, est devenu malédiction et a ainsi ôté la malédiction que Dieu dans son jugement avait fait tomber sur le monde. Le monde appartient au Seigneur? Page 18. L'Europe est au Seigneur avec tous les peuples qui s'y trouvent. L'Amérique appartient au Seigneur avec tous ses habitants. Le Cameroun est au Seigneur ainsi que tous ses habitants. Yaoundé est au Seigneur ainsi que tous ceux qui s'y trouvent, etc. Cite n'importe quel endroit dans l'univers et tu peux être sûr que cet endroit appartient au Seigneur. Le diable n'a rien créé. Tous ces lieux ont été créés par le Seigneur. Ils sont à lui par droit de création. De plus, ils sont doublement à lui par le droit de rachat sur la croix. Ceci entraîne de très importantes conséquences. Dans le passé, nous avons cédé le monde et tout ce qui s'y trouve au diable. Nous avons cédé au diable les hommes qui y habitent et nous avons tout fait pour nous éloigner d'eux. Il nous faut changer d'attitude. Aujourd'hui, je prends une nouvelle position et je dis toute la ville de Yaoundé est au Seigneur, tout le pays du Cameroun est au Seigneur, tout le continent africain est au Seigneur, le monde entier est au Seigneur. Je sais qu'il y a un usurpateur dans le Yaoundé de Dieu, dans le Cameroun de Dieu, dans l'Afrique de Dieu, dans le monde de Dieu. Mais le monde demeure au Seigneur? Cependant, le diable a mis quelque chose dans l'univers de Dieu et dans les créatures de Dieu qui est de sa propre fabrication et par conséquent cette chose n'est pas de Dieu. Cette chose qui est le chef-d'œuvre du diable est aussi appelée le monde. Mais c'est quelque chose qui n'est ni matériel, ni humain. Le monde du diable est un système de valeurs, une manière de penser, des hommes hostiles à Dieu, etc. qui éloignent les hommes du Seigneur et les introduit dans les profondeurs mêmes de Satan. Page 19. C'est quelque chose de fondamentalement séducteur qui éloigne les hommes de Dieu, qui glorifie ce que Dieu est et qui s'oppose au chemin de la croix. Le monde encourage l'orgueil, la volonté propre et le mensonge. Dans la parole de Dieu, on trouve de nombreuses citations au sujet du monde, le monde ne peut voir. Jean 7, 7, je ne suis pas de ce monde. Jean 8, 23, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Jean 12, 31, le prince de ce monde. Jean 12, 31, que le monde ne peut recevoir. Jean 14, 17, Seigneur, d'où vient-il que tu te feras connaître? À nous et non au monde? Jean 14, 22, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Jean 15, 19, si le monde vous est. Jean 15, 18, vous n'êtes pas du monde. Jean 15, 19, vous voulez m'entrer, et le monde se réjouira. Jean 16, 20, je vous ai choisi du milieu du monde. Jean 15, 19, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné. Jean 17, 9, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, Jean 17, 21, le monde ne t'a point connu. Jean 17, 25, mon royaume n'est pas de ce monde. Jean 18, 36, la sagesse du monde. I Corinthiens 1, 20, l'esprit du monde. I Corinthiens 2, 12, la figure de ce monde. I Corinthiens 7, 31, la tristesse du monde. 2 Corinthiens 7, 10, le train de ce monde. Éphésiens 2, 2, les princes de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6, 12, les rudiments du monde. Colossiens 2, 20, bien que vivant dans le monde. Colossiens 2, 20, l'amour du monde. Jacques 4, 4, les péchés du monde entier. Jean 2, 2, n'aimez point le monde. Jean 2, 15, les choses qui sont dans le monde. Jean 2, 15, tout ce qui est dans le monde. Jean 2, 16, celui qui a triomphé du monde. Jean 5, 5, page 20. Le monde entier est sous la puissance du malin. Jean 5, 19, ainsi, tous ceux qui sont en dehors de Christ sont du monde, ainsi que tout ce qui leur appartient, dans leur rébellion et leur indépendance vis-à-vis de Dieu. Le monde contient tout ce qui est approuvé et mis en avant par l'orgueil, la volonté propre, la tromperie, l'amour de la célébrité, de la popularité, etc. Toutes ces choses sont du monde et éloignent les gens du Seigneur. Combien les gens désirent être importants, connus, acceptés, acclamés. Oh, combien ils désirent s'approprier quelque chose qui porte leur nom, leurs idées, leurs modèles. Combien les gens résistent à la soumission. Le monde est la deuxième plus grande puissance qui détourne les gens de Dieu. Alors que Satan s'oppose à Jésus, en tant qu'héritier de toutes choses, le monde s'oppose au Père, qui exige pour lui un amour total. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Jean 2, 15. La croix et le monde. Quand Jésus Christ mourut sur la croix, il prit avec lui le monde, comme système cohérent, afin que le monde soit cloué sur la croix. L'apôtre Paul dit pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Galates 6, 14. L'apôtre dit le monde a été crucifié pour moi, et moi pour le monde. Si le monde a été crucifié, alors ce qui s'est passé pour le diable s'est aussi passé pour le monde. Le monde a été détruit. Son avenir a été anéanti et sa puissance a été brisée. C'est là une chose très sérieuse. Le monde est alors incapable de donner quoi que ce soit aux croyants. Il est inutile pour lui. Prends bien note, je suis inutile pour le monde. Le monde est inutile pour moi. Jonathan, page 21. Rien du monde. Le monde n'a rien à attendre de moi. Nous sommes inutiles l'un pour l'autre, crucifiés l'un pour l'autre. Cet événement aux conséquences si importantes s'est produit à la croix. Ceci est la vérité, indépendamment de ce que les croyants peuvent ressentir ou expérimenter. Le monde a été crucifié. Les choses vaines du monde ont été crucifiées. Les choses attrayantes du monde ont été crucifiées. Puisqu'elles ont été crucifiées, leur puissance a donc été brisée et personne n'a besoin d'être lié ou contrôlé par elles. Nous insistons sur le fait que nous ne tenons pas compte de ce que nous voyons autour de nous, mais nous savons avec certitude que le monde a été crucifié avec Christ. Il n'était pas possible que Christ fût crucifié et que le monde demeurât non crucifié. Il n'était pas possible que Christ fût mort sur la croix avec le monde et que le monde puisse cependant échapper à la mort. Cependant, le monde n'a pas été annihilé. Les restes de ce membre vaincu de la trilogie satanique demeuraient sont déterminés à tromper les gens quant à leur véritable nature. Comment le croyant doit-il vaincre le monde? Le croyant n'a pas à lutter avec le monde. Il doit seulement entrer en possession de son héritage. Sur la croix, le Seigneur a vaincu le monde pour lui-même et pour ceux qu'il a pris en lui à la croix, c'est-à-dire les élus. Parce que le Seigneur a vaincu le monde pour tous les croyants, chaque croyant individuellement et l'Église en général peuvent entrer dans cette victoire. Ceci est fait non en luttant ou en utilisant les moyens du monde pour essayer de fuir le monde, mais par la foi. Par la foi dans la victoire de Jésus, la foi en Jésus qui a vaincu le monde pour nous. La Bible dit-elle, il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, dit Jean 4, 17. Comment était-il dans le monde? Il était dans le monde en tant que vainqueur du monde. Ainsi nous aussi, en lui, nous sommes dans le monde en tant que vainqueur du monde. Page 22. Après la avant-chute de la Satan-chute, mais de avant Satan la croix le diable, a monde manifesté le neximonde qui n'était pas participe à sa puissance. Il accomplit ceci en déformant ce que Dieu avait fait. L'homme ne pouvait pas vaincre le monde, mais c'est le monde qui a vaincu l'homme. La croix. Après la croix mais avant que Satan soit jeté dans les temps de feu, dans la gloire. Le à la croix, le monde Seigneur Jésus a pris le trapu. Monde avec lui, l'a crucifié et l'a vaincu. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Dès ce jour, ceux qui sont en Christ entrent dans sa victoire et, s'ils le veulent, ils peuvent vaincre constamment le monde, car sa puissance a été brisée. La Bible dit encore parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Jean 5, 4-5. Écoute, la Bible dit quiconque est né de Dieu triomphe du monde. Es-tu né de Dieu? Vérifie bien ta réponse à cette question et acquiers une certitude, car c'est une question cruciale. Es-tu réellement né de Dieu? Si la réponse est oui et je crois que la réponse est oui, alors tu triomphes du monde. Tu es un vainqueur, page 23. Du monde. Tu ne crains pas le monde. Tu ne dois pas fuir le monde. Tu triomphes simplement du monde. La Bible dit que celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu triomphe du monde. Crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu? Cette question aussi est d'une importance capitale. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, alors tu es un vainqueur. Tu triomphes du monde. Tu n'essaies pas de triompher du monde, tu triomphes simplement de lui. Ceci est inhérent à toi, incarné en toi qui crois au Seigneur Jésus. La victoire sur le monde fait partie de ce que tu as reçu quand tu as cru au Seigneur Jésus. Quelle est la victoire qui triomphe du monde? La Bible dit que c'est notre foi. Ce n'est pas la foi dans la victoire, ni dans le monde, ni en nous-mêmes, mais c'est la foi dans le vainqueur. Nous croyons que Jésus est le vainqueur. Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, et par cela, nous sommes sauvés. Nous croyons que Jésus, le Fils de Dieu, a vaincu le monde et ainsi nous entrons dans sa victoire. En lui, avec lui et par lui, nous triomphons du monde. Il me faut croire que Jésus a vaincu le monde sur la croix. Il me faut croire que la puissance du monde a été brisée sur la croix. Il me faut croire que lorsque Jésus est allé à la croix, j'y suis allé avec lui. Il me faut croire que lorsque Jésus a vaincu le monde, moi aussi j'étais là avec lui, triomphant du monde. Parce que j'ai triomphé du monde à ce moment décisif de la victoire, le monde n'a plus de pouvoir sur moi. J'ai vaincu le monde. Je peux toujours vaincre le monde. Il me faut toujours vaincre le monde. Vaincre le monde est une obligation, le Seigneur s'attend à ce que la victoire de Jésus sur la croix soit proclamée et vécue jour après jour. Il s'attend à ce que ses ennemis connaissent une profonde défaite leur rappelant la défaite décisive et définitive acquise à la croix. Il nous a légué cette responsabilité, à toi comme à moi. Il attend de nous que nous annoncions ce qui s'est passé à la croix, aussi bien par nos paroles que par notre vie. Page 24. Aucun croyant ne peut faire exception à cette obligation de vaincre le monde. Aucun croyant ne peut avancer sans vaincre le monde, car la victoire du monde est automatique une fois que l'on croit au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus s'attend à ce que dès le jour où tu l'as reçu comme ton sauveur, tu commences aussi à vaincre le monde, car le sauveur en toi est aussi le vainqueur en toi. Nous insistons là-dessus. Le sauveur en toi est aussi le vainqueur en toi. En continuant à être notre sauveur, Dieu a aussi prévu qu'il continue à résider en nous comme vainqueur, qui triomphe en nous du monde, chaque jour. Défaite ou victoire, le malin œuvre surtout au moyen de la séduction. Il a conduit plusieurs à penser qu'ils doivent lutter avec leur propre force pour ne pas être vaincus par le monde. Certains essaient alors de s'éloigner, mais plus ils essaient de fuir le monde, plus ils deviennent mondains. Plus ils essaient de ne pas aimer le monde et les choses qui sont dans le monde, plus ils se trouvent amoureux du monde. Tu ne vaincras jamais le monde par des luttes. Tu ne vaincras jamais le monde par des résolutions. Tu n'auras la victoire sur le monde qu'en t'appuyant sur la victoire déjà remportée par un autre. Détourne aujourd'hui tes yeux de toi-même et du monde. Ne te soucie pas de vaincre le monde. Tourne-toi vers le Seigneur Jésus. Garde les yeux fixés sur le Seigneur Jésus, indépendamment de ce que tu as expérimenté dans le passé ou de ce que tu es en train d'expérimenter en ce moment. Garde tes yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Confesse sa victoire. Confesse ta victoire en lui et tu expérimenteras ce que tu confesses. La croix et la chair, les œuvres de la chair, sont manifestes la fornication, relation sexuelle impure, l'adultère, la dissolution, corruption, débauche, immoralité, l'idolâtrie, page 25. Tiret. La magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table, etc. La chair est inévitablement liée au péché qui est dans l'homme. Aussi, nous devons considérer la croix et le péché. Le péché est venu dans le monde par un homme, Adam. Quand celui-ci choisit d'obéir à Satan plutôt qu'à Dieu, il s'est vendu à Satan et le péché a été introduit dans le monde. Les racines du péché sont les volontés propres au lieu de la volonté de Dieu, les résolutions personnelles au lieu des résolutions de Dieu, le développement de soi au lieu du développement de Dieu en soi. La mort de Christ est le péché, quand Jésus est allé à la croix, il a pris sur lui tous les péchés du monde entier, péchés passés, présents et futurs, et les a portés avec lui sur sa croix. Il a emporté avec lui toute la punition que méritait l'homme à cause du péché et, en un seul acte, l'acte de sa mort sur la croix, il a résolu le problème des conséquences du péché une fois pour toutes. La Bible dit tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché, par son sacrifice Hébreux 9, 26. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes Hébreux 10, 10. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule, page 26, offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, Hébreux 10, 12-14. Mais celui qui a été abaissé, pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous, Hébreux 2, 9. La finalité de la mort de Christ Jésus a offert à Dieu un seul sacrifice parfait pour le péché. Aucun autre sacrifice pour le péché n'est nécessaire. Avant sa mort sur la croix, on pouvait faire des sacrifices pour le péché et Dieu les acceptait. Après sa mort sur la croix, tout sacrifice pour le péché est une abomination pour Dieu. Ceci ne concerne pas seulement le sacrifice des animaux, mais toute chose que quelqu'un présenterait à Dieu pour se faire accepter. Si quelqu'un présente des bonnes œuvres, des dons, des prières, etc. dans le but que Dieu pardonne et oublie ses péchés, il agit alors d'une manière abominable. La seule voie par laquelle nos péchés puissent être pardonnés et oubliés est de compter sur la seule offrande de Christ. Il n'y a plus aucun jugement à cause du péché. Le problème du péché a été réglé une fois pour toutes sur la croix, de telle sorte que Dieu ne le soulèvera plus jamais au jour du jugement. Les croyants n'apparaîtront pas devant le tribunal de Christ pour répondre des péchés qu'ils ont commis avant ou après qu'ils aient été sauvés. Christ a répondu pour tout cela sur la croix et Dieu ne peut pas appeler les gens à répondre deux fois pour une chose pour laquelle il a déjà mis son glorieux Fils à l'épreuve, l'a jugé et puni et lui a fait subir la mort pour tous les hommes.